1990 à 2024. Source 3A Data, janvier 2025. Clio Génération SCE 65 hors option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Il est 23h sur Europe 1. Et c'est un tour de l'info avec vous, Mel Hassani, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Il n'exprime ni regret ni compassion. L'adolescent de 14 ans placé en garde à vue après le meurtre d'une assistante d'éducation hier devant un collège de Haute-Marne explique aux enquêteurs avoir voulu tuer une surveillante mais sans viser spécifiquement Mélanie, la victime. Le mis en cause sera déféré demain devant un juge en vue d'une mise en examen. Une minute de silence sera observée demain à midi dans toutes les écoles de France. En réponse à ce drame, Emmanuel Macron évoquait hier l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Proposition défendue aujourd'hui encore par le président de la République depuis le salon Vivatech à Paris. Depuis 2015, dans tous les pays où les réseaux sont ouverts aux plus jeunes, on observe une épidémie de violence et de troubles du comportement, affirme le chef de l'État, tout en promettant d'essayer de convaincre l'Union européenne de prendre une mesure d'interdiction au niveau des 27. Rima Hassan devrait regagner la France demain soir. L'eurodéputé LFI est en cours d'expulsion d'Israël. Après l'arraisonnement du Madeleine en début de semaine, ce bateau qui se dirigeait vers la bande de Gaza, les quatre ressortissants français toujours présents dans l'État hébreu après l'échec de leur mission seront tous renvoyés dans l'Hexagone d'ici la fin de la semaine, précise le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Mohamed Amra, de retour ce soir dans sa cellule ultra sécurisée de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Le narcotrafiquant, interrogé aujourd'hui par des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Paris pendant plus de 3 heures, sans répondre à aucune question sur le fond. Cette audition pour rien a pourtant nécessité un dispositif de sécurité exceptionnel pour assurer le transfèrement de l'ennemi public numéro 1, plus d'un an après son évasion sanglante au péage d'Incarville. Gérald Darmanin esquisse son programme en vue d'une éventuelle candidature en 2027. Lors d'un débat organisé ce soir par son mouvement populaire, le garde des Sceaux se dit opposé à un nouveau relèvement de l'âge de départ à la retraite au cours du prochain quinquennat. Il souhaite garder la règle des 64 ans tout en mettant en place un fonds par capitalisation géré par les partenaires sociaux. C'est l'une des enseignes d'ameublement les plus connues en France. Casa annonce aujourd'hui son placement imminent en liquidation judiciaire l'année de son 50e anniversaire. Le tribunal de commerce de Bobigny étudie les offres de reprise, mais aucune d'entre elles ne devrait être jugée recevable, assure l'entreprise. Casa emploie près de 700 personnes dans le pays. Plus aucune alerte météo dans le sud-ouest. Vigilance orange aux orages levés dans les 4 départements concernés ces dernières heures, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et le Gers. Cet épisode orageux intervenait après un pic de chaleur sur la majeure partie de la France aujourd'hui. Jusqu'à 38 degrés relevés à Nîmes, 37 à Biscarrosse, 34 à Poitiers, 32 à Angers. Et puis il avait fondé les Beach Boys avec ses deux frères, son cousin et un voisin. Le chanteur Brian Wilson est mort aujourd'hui à l'âge de 82 ans. Après un succès planétaire dans les années 60, l'artiste californien a traversé de nombreuses épreuves, la dépression, l'addiction, puis la démence dans ses dernières années. Vous écoutez Europe 1, il est 23h03. La suite de la Libre Antenne, c'est avec Olivier Delacroix.
Merci mon cher Maël, et on attend une petite surprise tout à l'heure quand vous revenez nous voir à partir de minuit.
À tout à l'heure, Olivier.
À tout à l'heure.
Europe 1, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Il est 23h passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne. Et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, soyez les bienvenus chez vous, car plus que jamais, dans la journée, ici, dans cette libre antenne, c'est comme votre maison, comme votre salon, vous y venez, vous vous allongez, ou vous vous y asseyez, et puis vous venez vous y raconter. Nous sommes avec Béatrice depuis le début de cette émission, et ses douleurs perpétuelles ont fait de sa vie un enfer. Alors Béatrice, vous alliez évoquer une clinique contre la douleur, un centre antidouleur qu'une amie vous conseille.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que mes douleurs, les 6 premiers mois, ça pouvait aller sur de 9 sur 10. Vous voyez, quand on va dans un hôpital, on vous demande quel est le taux de votre douleur sur 10. Moi, ça pouvait monter jusqu'à 9. Et la moyenne, et c'était des douleurs à longueur de journée qui pouvaient baisser jusqu'à 3. Et au fur et à mesure des mois, ça s'était rajouté au niveau du front, des pointes sur les tempes, sur le haut de la tête. Ça s'est étendu aussi au niveau du cou et au fur et à mesure aussi au niveau des épaules. Et tout ça, ça prend tellement d'énergie qu'on est très fatigué. Moi, depuis 8 ans, je fais des siestes tous les après-midi. Je tiens pas le coup du tout. Et en plus, j'avais beaucoup de vertige. Donc, par exemple, aller chez quelqu'un pour discuter, le retour, j'avais toujours très peur parce que c'est un peu comme si j'étais saoule. Donc, aller quelque part sur une belle route sans aller voir quelqu'un, ça allait. Mais autrement, non, c'est très compliqué. Et donc, pour aller par rapport au centre de douleur, ils m'ont demandé d'abord d'aller voir un neurologue qui puisse faire un diagnostic et essayer un traitement. Donc, je suis allée voir une neurologue qui, elle, a mis un premier diagnostic des céphalées de tension. Parce que avant l'anévrisme, j'ai eu pas mal de soucis, aussi bien personnels que de santé. Et donc, elle m'a mis des médicaments. J'ai beau lui expliquer que j'arrivais pas à les ingérer et que je me prenais les effets secondaires. Elle m'a donné des premiers médicaments et des séances de kiné. Et le kiné, lui, m'a dit, mais pour moi, vous avez une névralgie d'Arnold. Donc, je suis revenue 3 mois après voir ma neurologue. Alors, les médicaments, c'était l'horreur. J'ai dû prendre en 3 mois, j'ai dû prendre 9 kilos, j'ai eu plein d'effets secondaires.
Ah oui, d'accord.
Elle m'a changé de traitement, mais elle est toujours restée sur sa position. Donc, 3 mois encore après, c'était catastrophique. Donc,
oui, même là-bas, on n'a rien trouvé. Oh là là.
Bah, elle a resté sur sa position, céphalée de tension. Donc, quand j'ai eu ces résultats-là, j'ai pu reprendre rendez-vous avec le centre antidouleur de Nantes. Mais l'attente est longue. Il y a beaucoup de monde qui attend. Et en plus, c'était début 2020, il y avait le Covid. Donc, j'ai pu avoir un rendez-vous en septembre 2020. Et là, je suis tombée devant un médecin qui m'a écoutée, qui m'a entendue, pour moi, ça a été un soulagement, quoi. De toute façon, j'ai fait que de pleurer, j'en revenais pas. Mmh. Et lui, il m'a dit, effectivement, pour moi, c'est une névralgie d'Arnold. Oui, donc ça part de la base du crâne derrière.
Oui.
Et c'est un nerf qui va jusqu'à l'œil. Et pour lui, c'était lié à l'anévrisme. Donc, dans ce centre antidouleur, ce qui est bien, c'est qu'on essaye plein de choses. On évite un maximum les médicaments. Donc, j'ai commencé par... j'ai fait de l'oxygène chez moi, mais ça fonctionnait... il aurait fallu toujours que j'ai les bouteilles sur moi. Dès que j'arrêtais, les douleurs revenaient. J'ai fait de l'hypnothérapie. Pareil, ça faisait effet sur le moment, mais les douleurs revenaient rapidement. Les TENS, c'est des petites électrodes que l'on met, qu'on positionne à certains endroits. Donc, toujours pareil, ça me faisait effet un moment. Et puis, même quand ça faisait effet, ça baissait les douleurs. Mais les douleurs étaient toujours là, mais un peu plus supportables. Et on a fait des infiltrations. Là, c'est pareil, ça faisait effet, mais... ça diminuait les douleurs, mais pas très longtemps. Et là, j'ai été mise en invalidité, donc j'en ai profité pour déménager, parce que j'étais dans un appartement et je tombais folle à être enfermée dans cet appartement. Et je me suis rapprochée de ma mère. Et donc, on a continué un petit peu de faire plein d'essais comme ça, et rien ne fonctionnait. J'étais toujours dans la même situation, même si ça allait mieux que les 6 premiers mois. Et l'été 2021, alors c'est difficile hein, de retracer ces 8 ans-là. Pour moi, c'est, émotionnellement, c'est assez dur.
Oui, je me doute.
Et là, en 2021, j'ai commencé à avoir des douleurs fulgurantes du côté gauche. Je ne pouvais plus du tout manger, je ne pouvais plus boire, des décharges électriques. Et je pensais que ça venait d'une dent. Et j'avais tellement mal qu'un jour, j'étais prête à m'arracher une dent avec une fourchette. C'était... ou un couteau, je me disais, je vais l'arracher. Et je suis tombée sur un dentiste qui était de garde un dimanche, qui m'a demandé mes antécédents médicaux et qui m'a dit, ça doit avoir un lien. Et heureusement, dans la semaine, j'avais rendez-vous avec mon médecin et il m'a envoyé tout de suite, dans les jours qu'on suivit, pour avoir un rendez-vous avec une neurologue. Toujours du centre antidouleur, qui, elle, a détecté une névralgie du trijumeau. C'est des douleurs insoutenables. J'ai déjà connu des douleurs très fortes, mais là, c'était en continu, en longueur de journée.
Ça a cessé de s'empirer, en fait, tout ça.
Ah oui, c'était... Je savais plus quoi faire, quoi. C'était l'horreur complète. J'ai perdu pas mal de kilos parce que je pouvais plus
manger.
Je buvais avec une paille et même encore, c'était la douleur était tellement forte que je me suis débloqué la mâchoire.
D'accord.
Donc c'est pour dire. Et là, elle a trouvé un médicament qui fond sous la langue. Mais le temps qu'il fallait progressivement augmenter la dose. Donc, ça a duré 2 mois et demi à avoir des douleurs. À la fin, j'ai été hospitalisée pendant 15 jours à la clinique sous kétamine parce que je ne tenais plus le coup. J'étais en nuit à un point.
Vous vivez un enfer, quoi.
C'est vrai. Ah oui, la névralgie du trijumeau, c'est... C'est vraiment horrible. J'arrive même pas à le décrire, mais c'est vraiment des décharges électriques, c'est insupportable.
Mmh. Mais est-ce à dire qu'il n'y a plus aucun espoir et que votre vie désormais sera comme ça jusqu'à la fin ?
Eh bien, c'est ce que je me dis, quoi. Et donc, avec cette neurologue... On est passé après, tous les 3 mois, j'allais pendant une semaine pour avoir des infiltrations de kétamine et d'acupan par voie veineuse. Alors la kétamine, il faut savoir que c'est une drogue.
Fort.
Ouais, c'est quelque chose qui sert aussi pour les chevaux. Les vétérinaires s'en servent pour les calmer, les... au moment des opérations. Et par rapport, contrairement à d'autres personnes qui, au bout de 5 jours, elles avaient des effets positifs tout de suite, moi, il fallait que j'attende à peu près 5 semaines. Et là, au bout de 5 semaines, les douleurs commençaient à baisser, à être supportables. Et hop, ça remontait au bout de 5 semaines. En fait, j'avais 3 semaines où je pouvais profiter un petit peu de la vie. Et comme ça, pendant tous les 3 mois. Quoi. Et sans compter le regard des gens, qui est très difficile.
Le regard des gens, c'est-à-dire
de l'extérieur, de l'entourage. Moi, j'ai perdu plein d'amis. Comme ça ne se voit pas. On a dit que que je simulais.
Oui, oui, bah comme pas mal de personnes qui souffrent d'endométriose qui, évoque justement le jugement et le regard des autres.
Ah oui, ça
parce qu'on ne les croit pas, parce qu'on ne les croit pas. On pense qu'ils font du cinéma, en fait.
Oui, oui, oui. Comme les personnes, il y a une autre maladie aussi. Moi, j'ai des contacts avec des personnes du centre antidouleur qui ont la fibromyalgie. Eh bien, je peux vous dire que quand les personnes qui sont suivies par le centre antidouleur, elles ont une vie... c'est pareil, c'est très dur pour elles. Et elles ont aussi le regard des gens qui n'est pas facile à gérer. Même si au bout d'un moment, on y fait moins attention, n'empêche que ça fait mal, quoi. Et moi, j'ai laissé tomber, j'ai mis de côté des personnes qui me faisaient des réflexions. Donc ça rajoute à notre souffrance quotidienne.
Bien sûr, bien sûr.
C'est très difficile à gérer. Et donc on a continué comme ça toute l'année 2021. Donc j'avais quelques petites semaines tous les trois mois où je pouvais avoir une vie à peu près normale. Et en plus, moi, j'ai un caractère où je ne montre pas. J'ai beaucoup d'humour, je suis dans l'autodérision. Donc quand j'étais à une soirée, les proches étaient au courant, mais... je ne montrais pas toutes mes douleurs. Ils me voyaient partir plus tôt, tout, mais... voilà, je suis quelqu'un qui... Et puis très dans l'autodérision par rapport à tout ça, quoi. Par exemple, le névralgie du trijumeau, moi j'appelle ça les toubisseries.
Oui.
Donc, c'était pour essayer de désamorcer un petit peu la chose.
Enfin, je suppose que pour vous... passer ce trait d'humour.
Oui.
Alors, je vois qu'il existe peut-être un espoir, c'est celui de vous faire opérer dans une clinique à Lausanne.
Alors, attendez, parce qu'il s'est passé d'autres choses entre-temps.
D'accord.
Entre-temps, en 2022, fin janvier, j'ai eu une occlusion intestinale par bride. C'est quelque chose de spécifique quand on touche aux intestins. En fait, c'est une sorte de petite cordelette qui se forme. Et moi, il ne me reste plus que l'intestin grêle. Et à force, ça a tout bloqué l'intestin grêle. Et donc, il a fallu que je me fasse opérer. Opération ouvrir le ventre. Et déjà, là, on m'a dit, mais sitôt après une opération, c'est très rare. Donc, ça a été un choc supplémentaire pour moi. Et en juin... À nouveau, occlusion intestinale. À nouveau, opération ventre ouvert, tout. Donc, ça a été une année aussi très compliquée. Et en 2023, j'ai changé, ma neurologue est partie, j'ai changé de médecin au centre antidouleur, qui a complètement changé mon protocole de soins avec très peu de kétamine et plein d'autres essais avec des électrodes, mais ça n'a rien fait du tout et mes douleurs ont commencé à monter. Et là, j'ai demandé à rencontrer un neurochirurgien qui a une très bonne réputation et c'est lui qui a mis ce diagnostic algie vasculaire de la face. Et il m'a dit que ça n'avait rien à voir avec l'anévrisme. En fait, c'est grâce entre guillemets, à l'algie vasculaire de la face, qu'on a pu découvrir l'anévrisme. Parce que cet anévrisme, s'il pétait où il était placé, je mourrais tout de suite. Et donc, il y a tout un protocole de soins. On est obligé, avec la sécu, c'est pénible, mais il y a tout un protocole de soins. Donc, les médicaments, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. L'oxygène, ça ne fonctionne plus sur moi. Les infiltrations ne fonctionnent qu'un mois. Et maintenant, la kétamine, c'est tous les six mois. Et ça fonctionne de moins en moins. Et en début d'année 2025, là, j'ai parlé, je pensais, moi j'avais l'espoir d'une opération avec des électrodes sous-cutanées. Et lui, il m'a vraiment déconseillé parce que c'est une opération qui est très risquée et qui a très peu de résultats et qui, pendant la période d'essai, donne d'atroces souffrances. Et j'ai eu d'ailleurs l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui avait subi cette opération-là il y a quelques années et elle m'a dit « mais ça a été l'enfer ». Et là, il m'a dit « bah maintenant, il n'y aura que ça, quoi. Infiltration tous les 3 mois et kétamine tous les 6 mois ». Et bah là, je...
Et quoi, pardon?
Là, ça a été un peu la descente aux enfers.
Oui.
Excusez-moi. Parce que déjà, depuis 8 ans... Depuis 8 ans, je vivais ça. Depuis octobre 2013, mes douleurs avaient vraiment monté. J'étais un peu venue encore pire qu'au début. Et me dire que toute ma vie, ce serait ça. Je me disais, je n'y arriverai jamais. Alors, heureusement, je suis suivie par une psy de la clinique Bretéché qui est formidable. Même d'ailleurs, j'en profite pour remercier vraiment tout le personnel du centre antidouleur parce qu'ils sont d'une gentillesse, ils sont à l'écoute, ils sont vraiment formidables. Et là, j'avais vu qu'il y avait... j'avais cherché sur Internet, j'avais vu un témoignage en marquant névralgie du... algie vasculaire de la face chronique, j'ai tombé sur un témoignage avec une personne qui s'est fait opérer dans une clinique à Lausanne. Mais les opérations sont hors de prix, quoi. Donc pour moi, je me disais, bah, je ne pourrais jamais, je n'ai pas du tout les moyens. Et un soir, bah, fin mars, j'ai fait une TS. Je me suis dit stop. Et là, j'étais comme je sais pas, j'étais consciente de tout. Mais voilà, j'étais décidée. J'ai dit, je peux plus. J'ai fait une lettre. Je me suis installée. Et c'était un vendredi soir. Et le samedi et le dimanche, je ne vois jamais personne. Donc je me suis dit, je vais être tranquille. Et j'ai pris les médicaments. Mais je n'ai pas pensé justement que les médicaments, bah, il y en a certains, je savais qu'ils feraient effet, mais j'en ai pris d'autres, vu que j'ai plus de côlon. Et en fait, c'est ma mère qui est venue me faire une surprise en m'apportant des gâteaux au chocolat. Alors ça reste le samedi après-midi qui m'a trouvée. Et même si je sais que, bah voilà, c'est ma mère, tout, mais je me suis dit, mais pourquoi t'es venue, quoi? Pourquoi? J'ai pas voulu qu'elle appelle les pompiers parce que je savais qu'ils allaient m'envoyer en hôpital psy et c'était pas ça dont j'avais besoin. Et le lundi, en plus, j'avais rendez-vous en visio avec ma psy, donc je lui en ai parlé. Et dès le lendemain, elle avait pris contact avec mon neurochirurgien et j'ai été hospitalisée. Parce que là, ils ont dit, il faut d'abord soigner la douleur. C'est à cause de la douleur que je suis dans cet état-là. Et après cette période, j'en ai parlé à une amie que j'avais fait cette TS.
Oui.
Tentative de suicide, quoi, pour les gens qui... Et je lui ai parlé de la clinique à Lausanne. J'en avais parlé à mon neurochirurgien de Nantes qui m'a dit effectivement c'est une méthode qui est prouvée, qui fonctionne très bien, mais qui ne se fait pas en France. Donc qui n'est pas reconnu par la sécurité sociale, donc qui n'est pas remboursé. Mais il m'a dit ça fonctionne très très bien.
D'accord, donc il y a un espoir.
Il y a un espoir. Et cette amie, Valou, je la remercie de tout cœur parce que c'est elle qui m'a dit « Essaye de faire une cagnotte litchi. » Parce que je n'ai pas les moyens de faire un emprunt.
Parce que cette opération coûte cher.
Alors, j'ai déjà eu... j'ai eu un premier rendez-vous en visio avec le chirurgien. Ça coûtait déjà 200 € pour à peu près 20 minutes. Mmh. Et je peux... là, il y a possibilité déjà d'avoir une opération qui coûterait 13 000 €.
Oui, d'accord.
En fait, il faudrait que j'aille 5 jours à Lausanne. Et donc... avec le premier jour, des tests. Le deuxième jour, ça dure à peu près une heure. Le deuxième jour, faire un... voir par rapport aux résultats. Et selon les résultats, opération le mercredi matin. Et c'est des opérations qui sont... ils appellent ça des opérations non invasives, qui n'ont pas de répercussions, qui sont vraiment... pas compliquées à faire. Qui n'ont pas enfin, qui marchent bien, quoi. D'accord. Il y a 80% de réussite. Il y a... Enfin, moi, je ne comprends pas qu'en France, ça ne soit pas autorisé. On entend parler de la sécurité sociale qui est en déficit. Cette opération, c'est 13 000... Et sans compter les frais de transport, le logement, tout. Depuis le temps que je suis prise en charge pour ce problème, j'ai coûté beaucoup plus cher.
Oui. On va être obligé de conclure, Béatrice. Donc, normalement, là, vous attendez maintenant de pouvoir réunir cette somme pour être opérée, en fait.
Oui, donc si j'ai ouvert une cagnotte litchi, donc si des fois les gens veulent faire un don... ils peuvent retrouver sur Litchi en marquant AVF Opération Lausanne. Ils tomberont directement sur ma cagnotte. Et j'ai fait aussi un compte Instagram où c'est ma petite chienne qui parle pour moi, qui s'appelle Aider Easy à soigner ma BA. Et là, ils verront un petit peu et...
D'accord.
Et je voudrais déjà remercier les personnes qui ont déjà participé à
répétez
cette
l'adresse de la cagnotte Litchi, s'il vous plaît.
AVF chronique, aidez-moi à financer mes opérations à Lausanne.
D'accord. AVF chronique, aidez-moi à financer mes opérations à Lausanne. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça va aller vite pour vous, Béatrice. Merci en
oui,
tout cas.
Oui, et puis pour toutes les personnes qui sont dans la même situation... regardez ce site parce qu'il y a des solutions pour les différentes migraines. Si ça peut aider d'autres personnes aussi. Parce
très bien,
que c'est très peu connu.
On vous souhaite plein de courage en tout cas, Béatrice, et on vous embrasse bien fort.
Merci pour votre écoute.
Je vous en prie. Et courage à vous.
Merci.
Courage.
Beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And it's funny.
Some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Frank Sinatra sur Europe 1 avec That Life. Il est 23h32, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1, soyez les bienvenus chez vous. Si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous pouvez continuer à composer le 01 80 20 39 21 ou vous pouvez aussi nous écrire vos SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. N'oubliez pas non plus que dès 9h30 vous retrouvez chaque jour Thomas Hill sur Europe 1. Thomas Hill et toute son équipe qui vous donne rendez-vous avec Culture Média. Et tout à l'heure, c'est Constance Binquet, directrice générale de Lagardère Radio et présidente de Lagardère News, et Jacques Maire, commissaire général du Pavillon France à l'exposition universelle d'Osaka, qui seront les invités de Thomas. Jacques Maire, donc commissaire général du Pavillon France de l'exposition universelle d'Osaka, où aura lieu une magnifique exposition pour les 80 ans de Elle, du magazine Elle. Frédéric Taddei aussi sera l'invité de Thomas. Vous le retrouverez donc, que vous retrouverez chaque week-end de 9h à 10h pour cette arrivée cette semaine et cette arrivée demain, et qui vient de sortir une nouvelle série de Birthday Book aux éditions Grasset. Voilà, belle distribution donc demain chez Thomas Hill avec Constance Binquet, notre patronne, et Jacques Maire, le commissaire général du Pavillon France à l'exposition universelle d'Osaka, et Frédéric Taddei. Vous n'oubliez pas que vous pouvez jouer aussi dans Culture Média par SMS en envoyant deux fois Média au pluriel au 739-21. C'est 75 cents du coût de SMS et peut-être serez-vous l'heureux gagnant des cadeaux de Thomas Hill et de son Culture Média. C'est de 9h30 à 11h sur Europe 1 tous les jours de la semaine. Nous accueillons Antoine maintenant sur la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Comment allez-vous Antoine ?
Si je vous appelle ce soir, c'est parce que je suis un peu... ça va pas trop bien. J'ai parlé de multiples reprises à chaque fois de mon parcours d'inclusion. De nombreux auditeurs le savent, je suis sorti d'un long coma, j'ai un handicap invisible.
Oui.
Enfin bon, et là maintenant j'avais on m'avait conseillé de une voix pour le café russe.
Pour
le café russe qui était conforme par rapport à mes aptitudes, à le chemin que j'avais fait.
Oui.
Et on m'a dit oui, il faudrait que tu passes au café russe et au lieu de tout de suite viser trop. Donc oui, voilà, j'ai reçu le concours pour aller tout en haut, le Cap d'Est. Et puis en fait, on m'a dit non, il faudrait que je passe le café russe d'abord dans un premier temps avec humilité pour je voulais aller plus vite que la musique et c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, alors j'avais trouvé tout de suite une formation pour passer ce diplôme. J'ai passé le concours d'entrée et en fait j'ai eu le résultat du concours d'entrée il y a une semaine. Il y a une semaine, ma mère venait de mourir.
Ah,
je rentre
pauvre.
Chez moi. Ah oui, mais vous savez, la chance.
Oh là là. Non, bref.
Ouais. Et ma mère venait de mourir. C'était assez. Enfin bon, bref, je pars pour parler de ça parce que sinon on va commencer à parler d'autre chose. Elle était dans un EHPAD. Enfin bon, c'était catastrophique. Je l'ai vu agoniser. J'ai vu mourir. Enfin bon. Et puis après, le soir, je suis rentré chez moi à Strasbourg. J'étais à Mulhouse. Et je rentrais chez moi à Strasbourg. J'ouvre la boîte aux lettres. Je vois que j'ai deux courriers, dont un courrier qui était de l'école que j'avais présenté à Mulhouse pour le café russe, examen. Et je me suis dit, j'avais pas un bon pressentiment. Je savais que ça n'avait pas marché. Je lis. Ils disent que j'ai refusé par manque d'expérience, que j'étais refusé, qu'ils m'avaient refusé l'accès à l'école, alors que j'avais assuré un financement, que j'avais assuré également le stage. Effectivement, je demande un apprentissage parce que c'est plus conforme par rapport à mon handicap, mais j'avais trouvé un stage et le financement. Donc, c'était assuré. Après, il fallait juste qu'on me fasse rentrer pour que je puisse suivre la formation. Ils ont refusé.
Pourquoi?
Manque d'expérience. Manque d'expérience, toujours la même chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça. Le manque d'expérience, c'est quelque chose que je pourrais jamais rattraper. Et avec mon passif personnel, j'ai fait des études en histoire, enfin, en commerce, et j'ai eu une longue rééducation. Et donc, cette expérience, je pourrais jamais l'acquérir. Donc, j'étais complètement dépité. J'ai vraiment, la mort de ma mère, le décès de ma mère, du coup, je suis orphelin. Le décès de ma mère, cette annonce pour mon futur qui, en un soir, tout s'est effondré. C'était très compliqué.
C'est dingue qu'on ne vous prenne pas avec toutes les compétences que vous avez.
Ouais, j'ai envie de vous dire oui, bien sûr, mais je. Enfin, ouais, bon, j'ai pas envie de dire, je suis découragé, je suis dépité, je suis vraiment, on m'a fait mal. Quand j'ai vu ça, j'étais anéanti, vraiment anéanti.
Ouais,
je me suis dit, alors, ma mère qui était le phare de ma vie, je me suis occupé d'elle pendant 10 ans, j'allais la voir souvent à l'EHPAD. C'était ma raison de vivre, maintenant qu'elle n'est plus là. J'ai un grand vide. Hein. Moi, j'ai un grand vide, ce qui est logique. Mais j'ai pas de futur. J'ai privilégié la rééducation sur ma vie personnelle.
Oui.
Et pendant 10 ans, après là ces dernières années, je me suis occupé de ma mère beaucoup, ça me travaillait beaucoup. Enfin, ma mère, elle a eu une longue agonie comme ça pendant 10 ans où chaque fois que j'allais la voir, pour moi, quand je rentrais, j'arrachais une partie de mon cœur et je partais en me disant c'est la dernière fois que je la vois. Vous rendez compte, ça pendant 10 ans. Donc quand elle est décédée, j'étais soulagé pour elle, parce qu'elle a trop souffert, c'était vraiment pénible. Mais bon, après, je me suis, après quand je suis rentré, j'ai ce courrier qui m'a, je sais même pas, j'avais déjà la tête sous l'eau, ben là, j'étais encore la tête plus sous l'eau. J'étais complètement abattu. Je me suis donné tous les moyens, j'ai fait tous les efforts, je fais tous les efforts et on reproche des choses que je pourrais jamais rattraper. Le manque d'expérience, j'ai une expérience, je comprends les choses, vous savez, le par rapport au handicap, le handicap, je connais vraiment particulièrement bien et je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il connaisse mieux le handicap que moi. Je suis pas, j'ai mon expérience, elle est sûre, mais là, je comprends pas.
Ouais, vous ne savez plus quoi faire, quoi, en fait.
Voilà, c'est ça. Je suis perdu. Je suis perdu. J'ai l'impression que le destin s'acharne sur moi. Et j'ai beau faire tous les efforts, je me retrouve toujours face à un mur. Et au bout d'un moment, vous savez, là, j'ai 44 ans. Je suis fatigué.
Vous en avez marre.
Ouais, c'est ça. J'en ai assez. Franchement, j'en ai assez, quoi. Je fais tout. Je suis jamais reconnu. Ouais, c'est compliqué. Hein. Au bout d'un moment, je sais pas.
Vous continuez à postuler, là, Antoine? Vous continuez, malgré tout?
Là, pour l'instant, bah, postuler à quoi? Je postule à rien du tout. Si maintenant il y a la prochaine entrée qui est à Strasbourg, elle est en mars, alors ça veut dire 8 mois ou... Non, c'est ça. Enfin, je sais pas, ça me... Juste penser que je vais 8 mois à rien faire, j'imagine les douleurs qui vont apparaître parce que je vais chez moi à cogiter, à pas avancer, à stagner, l'horreur. Et puis, je verrai pas pourquoi ça marcherait là et ça n'a pas marché avant. On va toujours me dire la même chose, le manque d'expérience, je viens pas du social. Ils vont toujours me dire la même chose. Je sais même plus quoi dire. Je suis vraiment défait. En plus, demain, ça n'a rien à voir, mais demain matin, je vais aller aux obsèques de ma mère.
Vous avez toujours votre père ?
Non, je suis orphelin maintenant.
D'accord.
Bon, orphelin, 44 ans, ça. Mais non, j'ai plus mon père depuis longtemps. Là, ma mère, elle était là, mais sans être là. Enfin, c'est avec sa pathologie, c'était... Et là, maintenant, je suis face à moi-même, en fait. Je peux plus me dire, j'ai ma mère, j'ai mon père. Non. Là, je suis juste moi. Moi, face à moi. Et je vois les choix que j'ai fait. Privilégier ma rééducation, privilégier mon insertion professionnelle sur ma vie privée. Du coup, j'ai pas d'enfant, j'ai rien du tout. Vous savez, je remets tout en cause maintenant, forcément. C'est une période où on met beaucoup de choses en cause, là, avec le... Et ce refus qui est pour moi qui est injuste, hein, il est injuste au possible. Hein. Pour moi, c'est validé toutes mes expériences professionnelles, professionnelles dans le social, parce que j'en ai, sauf que je progresse très vite, je comprends rapidement. Parce que quand j'ai passé l'oral, j'avais ma mère, je savais que c'est que. Enfin, j'étais pas dans les meilleures conditions, je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Et j'en ai assez d'être perdu, je vous jure.
Ouais, je comprends, Antoine, mais faut pas laisser tomber, il faut continuer à envoyer des CV, il faut continuer à vous battre, parce qu'il n'y a pas le choix,
Ouais, mais si j'arrive à rien, vous voyez, pour moi, j'arrive à rien. On me refuse.
Mais vous vous faites aider par une association. Il n'y a pas d'association pour le handicap à Strasbourg, là où vous êtes.
Si. Et alors, il y en a, justement, en même temps que j'avais le courrier, j'allais chercher il y avait une association pour le handicap et et m'ont envoyé un courrier comme quoi, en même temps, c'est la lettre de refus et ça, ou comme quoi ils ne pouvaient pas m'aider dans ce domaine, que je pouvais devenir travailler dans l'assistance sociale. Enfin, ils vont me proposer des métiers.
Il y a tellement besoin en plus dans les domaines où vous, votre candidature. C'est dingue. Mmh. C'est ça qui est dingue.
Vous savez, j'ai pensé à vous. J'étais à un job dating où il y avait l'aide à l'enfance. Et là, ils sont à recherche de... Comme vous l'avez dit, que la dernière fois, c'est, ils recherchent mais vraiment quelqu'un tout le temps, partout. Ils sont pas très regardants. Mais je... parce que pour le Café Russe, c'est un peu différent. Et du coup, ils veulent bien me prendre en stage. Ça, il n'y a aucun problème. Mais le stage, si l'école, elle ne me prend pas, le stage, enfin, je fais un stage, oui, mais je ne vais pas faire que des stages dans ma vie. Enfin, il faut quand même un jour que je puisse vivre, enfin, manger dignement, me mettre du chauffage en hiver. Vous savez, je ne demande pas. Moi, premièrement, je suis là, je suis à la radio, je vous parle. On peut croire que je demande l'aumône. Je demande pas l'aumône, pas du tout, hein, pas du tout. Je demande juste de l'aide. Et si j'ai pas d'aide, je peux pas y arriver. Ça, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Si j'ai pas d'aide, je peux pas y arriver parce que j'ai un passif, un passé, je sais pas comment dire, qui joue pas en ma faveur. Donc, je sais que je pourrais jamais y arriver. Et ça me fait, je sais plus quoi, je suis abattu. Bon, là, vous allez me dire parce que j'ai ma mère, mais il n'y a pas que ça, c'est que là, moi, mon futur, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas. Le temps du futur, c'est un temps qui est apparu tout récemment pour moi. Et là, maintenant, le futur, je suis obligé de retourner dans mon ancienne logique où le futur, c'est le présent. C'est le présent et tu verras bien. Et je veux plus ça. Je veux
bien vous croire.
Je veux plus. Et vous savez, en plus, à mon âge, j'ai pas 20 ans. J'ai pas 30 ans. On peut se dire, oui, demain, c'est loin. Moi, je peux pas me dire ça. Moi, demain... Demain, c'est aujourd'hui. Enfin,
oui.
Demain, c'est... Je sais pas, je suis vraiment désemparé.
Si vous nous écoutez, vous qui habitez du côté de Strasbourg, et si vous travaillez dans le social, appelez-nous ici au 01 80 20 39 21, que nous vous mettions en rapport avec Antoine, qui cherche à travailler dans le social, qui s'est occupé de son domicile fixe pendant un long moment et qui a plein de qualités et surtout plein d'énergie, de l'énergie à revendre. Voilà, appelez-nous s'il vous plaît. Je ne veux pas croire qu'à Strasbourg, il n'y ait pas quelqu'un qui ce soir nous écoute et travaille dans ce domaine-là et ne se dise pas, ce garçon, bien évidemment qu'il faut qu'il travaille avec nous. Vous voyez, j'ai relaissé un message, vous savez à qui, pour voir si elle pouvait faire avancer les choses. Je pense que je vais la voir ce week-end à nouveau, pour savoir si elle peut remettre un peu les choses en route, vous voyez, vous concernant.
Oui, merci.
On va essayer d'y arriver quand même, parce que c'est pas possible.
Vous savez, en plus là, le problème, il est simple. Enfin, il est simple. Là, je simplifie. Si l'école, elle me refuse. Je comprends pas. Enfin, elle me refuse. Bon, ok. En plus, avec quelqu'un du jury qui était dans mon jury, qui était en formation de CAFDES avec moi, et il a vu que j'ai arrêté la formation du CAFDES. Parce que je n'ai pas du social, donc c'est compliqué de faire effectivement cette formation qu'on n'a pas déjà un vrai passé dans le social. Donc j'ai tenté le Café Russe.
Et le Café Russe, c'est quoi?
Le Café Russe, c'est un diplôme. Une formation, c'est pour devenir cadre intermédiaire. C'est certification d'aptitude aux fonctions intermédiaires, je sais pas quoi, enfin de direction, d'intervention sociale, vous savez, les petites unités dans les grosses structures, il y a des unités. Et en fait, quand les cafés russes, on s'occupe de ces unités. On gère ces unités, en fait. Les unités des grosses structures.
Il y a des, il y a Agathe qui nous appelle et qui éduque à Strasbourg et qui nous donne son numéro pour que vous l'appeliez. Donc, vous ne raccrocherez pas à la fin, oui, Antoine. Oui. Vous allez appeler Agathe. En plus, Agathe nous écrit souvent. Donc, c'est une habituée de, une fidèle de la Libre Antenne. Et elle va vous filer un coup de main. Déjà.
Oh, génial. Merci. Ah, c'est super.
Ça va vous
merci
faire un
beaucoup
contact déjà sur Strasbourg. Quelqu'un qui est éduque et qui connaît. C'est comme ça que la solidarité de la Libre Antenne aussi se crée. Donc, je ne veux pas croire qu'on ne va pas y arriver, Antoine. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ouais, et franchement, Olivier, je suis très gêné d'intervenir pour dire des choses comme ça. En fait.
Non, mais ouais, ne soyez pas gêné, on est là. Je vous l'ai toujours dit, je suis là pour
je
ça.
Sais, mais bon.
Tant que je suis là, profitez-en. Hein. Parce que ça ne durera pas. Donc profitez-en. Vous êtes là. Et profitez du fait de parler à la radio et de dire. Voilà ce que vous vivez, parce que ce que vous vivez est totalement injuste. Donc, c'est pour cela que à chaque fois, Florian et moi, on accepte de vous faire parler, parce que votre situation est tout à fait injuste et injustifiée. Il n'y a aucune raison que, en plus, vous avez un handicap, ce qui devrait, en plus, je ne dis pas favoriser, mais débloquer un peu les choses.
Oui, bien sûr, je pense aussi.
Et ça. Ça n'est absolument pas normal, parce que vous voyez, encore une fois, les beaux discours, hein, et puis normalement, ce qui est mis en place pour que des organismes d'État, parce que beaucoup de social, ben c'est l'État ou le département, devraient respecter aussi le fait d'engager des personnes porteuses d'un handicap. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Donc, je trouve ça scandaleux. Donc, on va y arriver, Antoine. On va y arriver.
Ouais, j'espère. Oui, je suis d'accord, mais franchement, je suis d'accord. Vous savez, j'œuvre vraiment, vraiment pour y arriver. Ça fait 20 ans, 23 ans que j'essaie de tout cœur, enfin, de tout donner pour y arriver, pour m'en sortir. Je m'en sors, mais pas. Moi, j'aimerais bien travailler, en fait. c'est bête, mais moi, je voudrais travailler. Enfin, oui, c'est. Moi, je voudrais travailler. Je pourrais rester chez moi, être content avec mon âge, et me dire, ah, ça va. Et en fait, mais moi, ça ne me convient pas. Je ne suis pas au stade où je me satisfais de l'âge. Là, j'ai besoin de me sentir utile. J'ai un vrai vécu, j'ai un vrai passif qui est intéressant, qui est structurant. J'ai une compréhension du handicap qui est toute particulière. J'ai réussi à m'en sortir avec beaucoup de guillemets. Et là, maintenant, on me dit, bah, oui, mais tu as quand même ça. Tu peux pas, non. Tu peux pas aller, par exemple, comme dans les ESAD, dans ces structures où on met des personnes handicapées. Je peux pas, alors que pourtant, je pourrais très bien travailler avec des handicapés parce que je les comprends spécialement bien et je sais très bien œuvrer pour le bien-être. Vous voyez, le bien-être.
Bien sûr, comment bien sûr.
Mais, ouais, mais je suis. Enfin, je. Vous savez, je ne trouve même pas mes mots, je bégaye.
Vous voyez, Agathe vient de nous réécrire, il y a nécessairement moyen de trouver un chemin, quel qu'il soit, mais il est vrai que le social est un milieu quelque peu fermé, avec des connexions, il y a toujours de quoi trouver. Vous voyez, ça va peut-être être Agathe, votre ange, là, vous voyez
ça
en tout cas, on croise les doigts pour ça, hein, Antoine, bien
ah,
évidemment.
Ah oui, je croise beaucoup. Et vous savez, mais pourquoi l'école, elle m'a refusé? Enfin, pourquoi on m'a refusé une école sociale, m'a refusé alors que j'avais reçu le diplôme au-dessus, je passe le diplôme en dessous. Ils devraient justement me dire, bon, on va vous aider, oui, d'accord. On comprend votre choix de plutôt passer en bas, commencer par devenir une étape intermédiaire avant d'aller viser les diplômes que vous avez tentés. Parce que lui, effectivement, c'est trop. Et je comprends pas qu'une école sociale, elle s'est pas dit ça et qu'elle a dit, ah, manque d'expérience. Vous voyez, chercher la petite bête, manque d'expérience. On veut pas me prendre. En fait, tout simplement, on veut pas me prendre. On voulait pas me prendre. On voulait pas me prendre. En plus, c'est vrai que la fois où j'ai passé l'oral, j'étais un pas battu avec ma mère. Enfin, c'est compliqué. On veut pas me prendre. C'est une espèce de fatalité que j'ai comme ça, qui est terrible.
Ouais. Mais quand c'est comme ça, je vais vous dire, il faut continuer à batailler. Il faut continuer, comme vous l'avez fait, à appeler. Vous voyez, vous êtes passé par la radio ce soir, et depuis un moment, vous êtes passé par nous, et vous avez eu raison. Il faut continuer à se battre. La fatalité, bien évidemment qu'elle existe, hein, mais il ne faut pas l'accepter, la fatalité. Il ne faut pas l'accepter. En tout cas, il faut vraiment, vraiment vous battre et continuer à vous battre pour... vous allez y arriver. On va y arriver, de toute façon.
Ouais, juste, mais franchement, enfin, j'ai pas... Mais vous savez, Olivier, à chaque fois que je vous parle, vous avez une telle empathie, vous avez une telle compréhension, vous avez une intelligence émotionnelle qui est folle. Chaque fois, vous me faites du bien, vous me rassurez. Vous êtes quelqu'un d'incroyable. Mais vous savez, je suis prostré, je suis fatigué de tout en des refus, ça marche pas. Je suis là, au bout d'un moment, je me sens complètement abattu.
Mais vous sentez abandonné, surtout. Voilà.
Ah oui, je suis abandonné.
Mais comme plein de gens qui sont pleins de d'énergie, qui se battent pour y arriver, qui pourraient apporter à la société, et puis c'est tellement mal foutu que et puis il y a tellement de gens qui s'en foutent en fait des autres qui voient pas, ils voient plus, vous voyez la qualité et justement ce que vous pouvez leur apporter. Mais ce qu'on va faire, on va bousculer les choses comme on le fait ce soir. On bouscule les choses. Et vous voyez Agathe. Qui continue à nous écrire. Vous me direz, vous me tiendrez au courant, Agathe, j'allais vous appeler Agathe, Antoine, puisque vous avez mon numéro, vous me direz comment ça va se passer. Mais Agathe est quelqu'un qui a une grosse énergie aussi, je le sens. Et oui, elle a raison de dire que c'est une question de connexion, vous voyez ? Parce que, encore une fois, vous avez ce handicap, et faut pas me faire croire que. Il y a certaines personnes qui ont considéré que ce handicap était un frein ou un obstacle à vous prendre. Vous voyez ? Et ça, c'est intolérable et inacceptable.
Ouais, je suis d'accord. Vous savez, Olivier, moi, mon handicap, comme je l'ai dit, il est invisible. Moi, on ne voit pas du tout. Et surtout que, j'arrive à bien masquer, cacher les choses. Ça, c'est bon, ça. Et je me dis toujours, j'aurais dû rester en fauteuil. J'aurais pas dû faire tous ces efforts que j'ai faits pour tout rattraper, pour tout cacher. J'aurais dû rester un handicapé dans le sens visible, en fait. J'aurais dû rester comme ça. Vous voyez la réflexion que j'ai. Je suis là, au fond de moi, j'ai pas du tout envie de ça. On est bien d'accord. J'ai pas du tout envie de ça, mais je me rends compte que quand on est en fauteuil, il est en fauteuil, et tout de suite, on fait les connexions. D'accord? Il est en fauteuil, il y a ça, c'est logique. Je suis pas en fauteuil, et j'ai aucune envie d'être en fauteuil. Je suis très content d'en être sorti. Je suis très content qu'on voit pas mon handicap. Je suis très content de tout ça, mais quand à chaque fois j'ai ce retour de bâton, je me dis, mais pourquoi j'ai fait tous ces efforts au final? J'ai voulu intégrer la société, et la société, maintenant que
vous
je suis
rejette.
Intégré,
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est bon. Ça, c'est...
En tout cas, Antoine, vous ne raccrochez pas, parce qu'on va vous donner le numéro d'Agathe,
bien sûr,
que vous pouvez appeler, que vous pouvez appeler maintenant. Hein, dès qu'on se quitte, Florian va vous donner son numéro et vous pouvez l'appeler maintenant et comme ça vous me tenez au courant, d'accord ?
D'accord, merci beaucoup.
Je vous embrasse et puis n'oubliez pas Vous êtes un fighter, un combattant. On va y arriver. Ouais. On va y arriver.
Merci.
Je vous embrasse, Antoine.
C'est quelqu'un d'incroyable. Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Le top jeu européen de la chance.
Vous venez d'entendre le top jeu européen de la chance. À partir de maintenant, vous avez 15 minutes pour jouer et tenter de gagner un iPhone 16. Ce vendredi est un vendredi.